France Inter, Christelle Rebière, le 6-9.
C'était la baignade la plus médiatisée au monde. Le 17 juillet, la maire de Paris faisait quelques brasses dans la Seine avec Tony Estanguet sous le crépitement des flashs. Ça faisait 100 ans que personne n'osait y risquer un orteil. Depuis, on a des nouvelles quotidiennes de la qualité de l'eau pour cause de triathlon olympique. Et Anne Hidalgo, confiante, affirme même qu'il y aura 3 sites de baignade dans le fleuve l'été prochain. Alors plus généralement, dans notre pays qui compte 137 fleuves et 500 rivières, pourra-t-on piquer une tête dans la Loire ou encore dans le Rhône? Y a-t-il des plans de reconquête de nos fleuves face à la pollution? On plonge dans le grand bain ce matin avec Emma Aziza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue, présidente fondatrice de la société Mayanne, spécialisée dans l'adaptation de notre société au changement climatique. Et puis nous sommes en ligne avec Franck Pidou. Pardon, bonjour.
Bonjour.
Directeur du service de l'aménagement des eaux et de la pêche du canton de Genève, parce qu'on va voir que nos voisins suisses sont beaucoup plus en avance que nous dans ce domaine. D'abord, Emma Aziza, le bulletin de santé de nos fleuves et rivières, on en est où en ce moment par rapport à la pollution ?
Alors déjà, il y a une vraie prise de conscience, notamment grâce au JO, de cette baignabilité, de cette potentialité de vouloir réduire l'ensemble de ces polluants. C'est quelque chose qui est très récent, parce qu'il faut avoir un petit peu en tête le fait que le fleuve, durant tout le 19e siècle, a représenté surtout un danger crucial. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des peurs notamment de risque d'épidémie, de fièvre typhoïde. On a eu en 1832 une très grosse épidémie de choléra. Donc en fait, le fleuve nous faisait peur et puis surtout, on rejetait tout nos déchets à ciel ouvert. Le fleuve était une poubelle. Et donc, si vous voulez, il y avait tellement d'odeurs fétides qu'on avait tendance à recouvrir nos cours d'eau. La Bièvre, par exemple, à Paris, a été entièrement recouverte pour pouvoir avoir des riverains qui pouvaient vivre avec cette rivière. Donc, notre rapport à la rivière durant ces dernières décennies a évolué. On a eu cette ère industrielle majeure qui a amené de nouveaux polluants. Et donc, on est devenu, à un moment donné, complètement déconnecté de cette potentialité de baignabilité.
On a fini par oublier, en fait.
Voilà, qui devenait quelque part un peu une utopie, j'ai envie
oui,
de dire.
C'était une promesse politique de Jacques Chirac à
Exactement,
Paris, qui datait des années 80. Et c'était presque un gag à force.
Alors oui, et surtout, en fait, c'était les rivières, c'est surtout, et les fleuves, sont surtout le cœur névralgique économique de nos villes. On s'est installé à côté de nos fleuves, justement, parce qu'on avait surtout une force hydraulique, et donc durant tout le 19e siècle, on utilisait beaucoup cette force hydraulique qui s'est transformée ensuite en barrage hydroélectrique et aujourd'hui en centrale nucléaire. Donc la question de notre rapport au fleuve, c'est avant tout une question énergétique. On était très loin de la question de la baignabilité. Mmh. Et donc là, on est d'un seul coup en train d'essayer de se réapproprier nos fleuves. Pourra-t-on se baigner effectivement l'année prochaine dans la Seine, dans le Rhône? Il y avait un test qui devait avoir lieu avant l'été. La Loire, ça reste tout de même très compliqué. C'est des très grands fleuves avec des débits très variables, avec de très importants dangers. On a vu que, par exemple...
Oui, il ne faut pas oublier que c'est dangereux quand même de se baigner dans un fleuve.
Beaucoup plus que dans une rivière. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment des trous d'eau, on a des variabilités très intenses de débit. On a notamment des fleuves qui sont régulés en amont par des barrages hydroélectriques. On peut avoir des lâchers de barrages, c'est-à-dire qu'on peut avoir déjà un choc thermique. On va avoir ces eaux qui ont été conservées durant l'hiver, qui vont être lâchées massivement durant l'été. Donc on a un changement de température. En fait, tout ça fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un danger pour l'homme. Et donc, effectivement, eh bien, au fur et à mesure de nos décennies, on a écarté cette question de pouvoir se baigner dans nos fleuves.
Est-ce que le réchauffement climatique accentue encore le phénomène, le problème, la difficulté ?
Alors, le changement climatique et le réchauffement de manière globale a pour effet d'accentuer la température des fleuves. On l'a vu en 2022, on atteignait de tels taux de température qu'il y avait des questions qui étaient remises à un moment donné en jeu, notamment la question nucléaire, puisque vous savez que les centrales nucléaires prennent de l'eau et ensuite la rejettent beaucoup plus chaude en sortie. Et donc, si vous rajoutez 3 degrés en sortie dans une eau qui est déjà très chaude, alors qu'on a déjà un milieu qui est déjà en souffrance, on a des vraies questions qui se posent aujourd'hui, parce qu'en augmentant la température, on augmente augmente premièrement le risque de prolifération et d'eutrophisation, c'est-à-dire cette manière dont le cours d'eau va s'étouffer, il va manquer d'oxygène et donc en s'étouffant, eh bien, c'est l'ensemble des organismes piscicoles qui vont aussi mourir. Donc en fait, on a vraiment cette question et ce rapport à notre fleuve qui est extrêmement complexe et surtout quand vous augmentez cette température et que vous diminuez le débit, puisqu'on a vu par exemple en 2022 des débits extrêmement bas sur la Loire, eh bien vous augmentez la quantité de polluants puisqu'ils sont beaucoup moins dilués. Donc c'est un véritable enjeu majeur de nos sociétés dans les décennies à venir.
Alors comment fait-on pour les dépolluer justement ces fleuves ? Alors à Paris, on a vu, il y a eu plein de choses. Il y a eu le fameux bassin de rétention
d'Austerlitz,
mais il y a eu plein d'autres choses.
Oui, exactement. On a mis déjà des filtres très puissants, ultraviolets, pour éliminer notamment tout ce qui est Escherichia coli, toutes ces bactéries dont on a parlé par rapport aux nageurs. On a aussi également, effectivement, mieux géré les péniches. On a mieux raccordé également tous ces polluants qui, en général, sont rejetés dans la rivière.
On a découvert qu'en fait, les péniches n'étaient pas reliées au réseau d'assainissement.
Les péniches, mais il y avait aussi de nombreuses villes qui n'étaient pas directement reliées, qui n'étaient pas assez appareillées, qu'il fallait aménager en amont, parce que l'eau qui passe dans la Seine, c'est la résultante de toute l'eau qui s'écoule depuis l'amont et depuis l'ensemble de ses affluents, depuis l'Yonne, la Marne, etc. Et vous allez avoir un certain nombre de villes qui utilisent ces eaux, qui ensuite vont les utiliser pour des usages domestiques, vont les rejeter pollués dans des stations d'épuration, vont les traiter en grande partie, mais il reste toujours des polluants. Les plus grands polluants sur lesquels on a encore de très grandes difficultés, c'est principalement les résidus médicamenteux. Il y a aujourd'hui très peu de médecins en France qui réfléchissent quand ils font une ordonnance au fait que cette molécule chimique finira dans la rivière ou dans le fleuve et donc aura des conséquences sur la faune et la flore. J'en connais quelques-uns, mais très peu encore. C'est pas quelque chose qui est démocratisé. On a un véritable sujet hormonal. On a des perturbateurs endocriniens très forts qui sont liés à nos rejets domestiques. On a notamment tous les problèmes d'ammoniac liés tout simplement à nos lessives. Peut-être que dans un futur, si nous voulons avoir des rivières et des fleuves qui sont de qualité, il faudra changer nos méthodes, changer les médicaments qu'on prend et puis changer la manière dont on lave nos vêtements.
Donc on l'entend, la route est encore longue. Et pourtant chez nos voisins, on se baigne à Bâle, à Vienne, à Berlin, à Copenhague. On prend l'exemple suisse puisque vous êtes avec nous, Franck Pidou. Il paraît que vous vous moquez un peu de nous quand vous voyez la surmédiatisation d'une petite baignade dans la Seine. Vous êtes dans le canton de Genève et chez vous, on se baigne depuis très longtemps.
Alors, je ne me moque pas de vous. Alors, un point important, finalement, Genève, on a suivi un petit peu le même schéma que suit Paris. Donc, nos amis de Zurich, de Bâle, de Berne se baignent et n'ont jamais arrêté de se baigner dans leur fleuve. Et finalement, c'est eux qui nous ont servi d'exemple. Et nous, les bains dans le Rhône, typiquement, on les a relancés depuis les années 2008-2009. Donc, c'est pas très ancien. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des aménagements qui permettaient aux gens d'accéder à l'eau et de se baigner.
Oui, mais alors pourquoi on se baigne dans le Rhône du côté suisse et pas dans le Rhône côté français ?
Mais en fait, il faut se baigner dans nos fleuves. Alors j'entends ces problèmes de pollution, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on a amélioré la qualité d'eau, en France comme en Suisse. Par exemple, dans les années 70, on se baignait plus dans le lac Léman, 70-80, on avait vraiment une eau de mauvaise qualité. Et il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'assainissement. Et grâce à ce gros travail, et ben maintenant, finalement, le lac Léman, c'est une réserve d'eau potable où on se baigne dedans. Mmh. Et ce lac Léman, après, se déverse et va donner le Rhône. Donc, nos fleuves, avec les efforts d'assainissement qui ont été faits, sont devenus les endroits où on peut se baigner. Alors, bien sûr, il faut suivre, il faut surveiller les pollutions.
Il y a beaucoup plus de contrôle que chez nous.
Il faut améliorer encore nos stations d'épuration. Il n'y en a pas beaucoup plus.
Ouais.
Et je dirais, donc, on fait environ, c'est une fois par semaine que sont faits ces contrôles sur l'ensemble des plages, une fois même tous les 15 jours. Donc, on contrôle et on voit que la qualité reste relativement constante. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effort d'assainissement de réaliser. Et il faut aussi se rendre compte qu'on doit apprendre à se baigner dans nos fleuves. Typiquement, quand on a des épisodes orageux, on peut avoir des déversements parce que les stations d'épuration ne peuvent pas forcément absorber tout. Et ben voilà, c'est exactement en fait comme quand on est en haut haute montagne et il faut accepter de vivre avec ces fleuves et ces éléments naturels et puis se dire que quelquefois il peut avoir des dangers ou des problèmes. On ne va pas faire descendre une pente de ski très raide juste après que la neige soit tombée parce qu'on a des risques d'avalanche importants. Mmh. Là, c'est un petit peu la même chose. On doit apprendre à se rebaigner dans ces endroits naturels, mais il faut se baigner. Si l'homme se baigne, en fait, on va se battre pour avoir une bonne qualité d'eau.
Oui.
Et si on se bat pour avoir une bonne qualité d'eau, on aura des fleuves qui sont intéressants. Je prenais la comparaison, il y a 100 ans, pour savoir si l'eau était potable, on mettait une truite dedans et puis on surveillait qu'elle tombe pas malade. Finalement, maintenant, nous, on est devenus la truite et pour que nos fleuves soient propres et qu'on puisse se baigner, si les hommes sont dedans, a priori, l'eau sera propre et nos fleuves seront en bonne santé. Donc on rentre dans un cycle et il faut accepter.
C'est du bon sens. Il y a aussi une question juridique quand même qui pourrait expliquer la différence entre la France et la Suisse. Chez vous, se baigner, c'est une responsabilité individuelle, alors qu'en France, en cas d'effet secondaire, on peut se retourner contre les autorités. Ça, Emma Aziza, c'est une différence fondamentale.
Oui, c'est fondamental. Alors déjà, lorsqu'on est en Suisse, on est en tête amont du bassin du Rhône. Donc c'est plus simple de se baigner toujours à l'amont d'un fleuve qu'à l'aval, puisqu'on récupère moins de polluants. Donc il y a tout de même beaucoup plus de dangers jusqu'à Arles, c'est jusqu'à vrai. Son embouchure. Mais au-delà de ça, effectivement, je crois que c'est vraiment une question de pédagogie qui est totalement différente. Quand vous allez à Bâle sur le Rhin, on voit qu'il y a effectivement un ensemble de personnes qui viennent se baigner, mais par contre, on a déjà des décennies de travaux qui ont été faits, c'est-à-dire que l'effort qui a été mis en place à Paris dernièrement, il est déjà actif parce qu'il y avait eu un grave accident chimique avec 20 tonnes de pesticides qui avaient été rejetés à l'époque et qui avaient engendré un tel choc qu'on s'est dit, il faut transformer les choses. Et donc, ce travail que l'on voit aujourd'hui, on voit les gens se baigner de manière assez naturelle, c'est tout de même le résultat d'un effort de plusieurs décennies. Ce n'a pas été le cas depuis toujours. C'est quelque chose qui est très récent. Et puis surtout, que ce soit sur le Danube, sur la Vienne, partout, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la baignade. Par exemple, on va avoir des bateaux tondeuses qui vont racler, vous savez, les algues pour éviter que les baigneurs, finalement, se sentent mal. On va avoir des applications pour pouvoir mesurer la température de l'eau. On va pouvoir aussi avoir le niveau de l'eau et connaître exactement les zones de baignade dédiées. Donc on a un travail qui est fait, qui peut inspirer d'ailleurs Paris pour l'année prochaine. Mmh. Mais en tous les cas, ce travail il n'est pas arrivé par magie. Il faut bien comprendre que 80% de tous les fleuves dans le monde reçoivent l'intégralité de nos déchets humains directement dans le fleuve. Il ne faut pas imaginer que c'est simplement en Asie ou en Afrique. Mmh. On peut aller aux États-Unis, le Mississippi est un des fleuves les plus pollués. Le Brésil, c'est absolument catastrophique, les résultats qu'on a aujourd'hui de pollution chimique dans nos fleuves. Donc, nos fleuves ne sont que le reflet de nos société et de nos modes de fonctionnement industriels, de nos eaux usées, de toutes nos consommations. Et donc, dès que vous avez en plus une forte pluie, vous allez avoir une accélération de ces polluants. Donc, le défi est majeur.
Et des fortes pluies, il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique.
Alors, ça dépend des années, mais effectivement, cette année, on s'est retrouvé dans des formes de rivières atmosphériques depuis la fin du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, qui franchement nous ont mis dans une situation très particulière. On n'a pas eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on aurait pu avoir une eau de bien meilleure qualité, vu les travaux qui ont tout de même été menés en avant, quand on voit cette station d'Austerlitz, elle Paris, permet de récupérer un des plus grands polluants qui est l'eau de ruissellement, puisqu'on a des villes totalement imperméables, on n'a pas laissé la place au cycle de l'eau dans la ville. Donc, comme il n'y a pas de verticalité possible, on n'a pas cette eau qui peut pénétrer pour rejoindre des nappes, les eaux ruissellent massivement, et comme on ne sait pas garder le trop-plein, eh bien, on rejette l'ensemble de cette eau, sauf qu'elle est remplie d'hydrocarbures, de tous les déchets qui sont issus de nos pneus. En fait, il existe un certain nombre de polluants dont on n'a pas conscience. Et pour travailler sur le fleuve, il faudrait que nous travaillions par exemple sur nos toitures. Il faudrait que nous puissions recréer cette verticalité, c'est-à-dire des villes qui soient absolument perméable, qui retrouve ce lien avec le cycle de l'eau, qui ne le coupe pas. Une ville, c'est une sorte de cuirasse. On a oublié le sol qu'il y a dessous, on a oublié la nappe qu'il y a dessous. Et donc, il va falloir recréer cette connexion, parce que des exemples ont été menés à travers le monde et nous montrent qu'en l'espace d'un an, si vous réussissez à désimperméabiliser l'intégralité d'une ville, eh bien, vous pouvez gagner 90% de la qualité du cours d'eau, parce que l'eau de pluie s'infiltre dans les sols et ensuite vient alimenter la rivière à travers la nappe et pas directement en récupérant l'ensemble des polluants. Pour moi, c'est vraiment le plus grand défi qu'on a, parce qu'on réglera en grande partie les grands enjeux du changement climatique, notamment avec les îlots de chaleur urbains, et puis notamment ce défi de la qualité de nos cours d'eau.
Et puis, il y a une autre piste juridique, cette fois, ce que l'on appelle le Parlement de Loire, et nous sommes en ligne avec Marine Isquierdo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, merci d'être avec nous. Avocate et membre de l'association Notre Affaire à tous, vous plaidez pour la reconnaissance des fleuves comme des entités vivantes. Expliquez-nous ce que ça signifie et ce que ça change.
Alors, des entités naturelles, en fait, qui seraient sujets de droit. Pourquoi ? Parce qu'on constate que tous nos écosystèmes aquatiques sont en mauvais état écologique et sont en train de disparaître, et que la biodiversité, en général, est en train de s'effondrer. Alors, on a plusieurs possibilités. La première, ce serait de renforcer le droit existant, le droit de l'environnement, voire tout simplement l'appliquer, avoir des sanctions plus dissuasives, etc. C'est nécessaire et c'est ce que nous souhaitons tous. Mais même si on renforce le droit de l'environnement, on reste dans une approche assez anthropocentrée et utilitariste, où la nature est perçue comme une ressource que l'homme peut librement exploiter pour ses propres bénéfices. Mmh. Et Maziza a donné l'exemple justement des centrales nucléaires où on prélève de l'eau et on rejette de l'eau encore plus chaude. Donc une deuxième possibilité, qui est complémentaire à la première, ce serait de changer de paradigme juridique et de sortir de ce cadre conceptuel dominant, assez anthropocentré, pour se décentrer, nous les humains, et reconnaître des droits à la nature.
C'est-à-dire penser autrement.
Penser autrement et donc leur reconnaître des droits. Donc ces droits pour des fleuves, ce sera par exemple le droit d'exister, de s'écouler librement, de remplir ses fonctions écologiques essentielles ou encore de se régénérer. Et donc, avec les droits à la nature, les fleuves, par exemple, vont ainsi passer du statut d'objet à celui de sujet de droit et pouvoir agir directement en justice par l'intermédiaire de représentants désignés pour faire valoir leurs droits. Mmh. Et aujourd'hui, il existe tout un mouvement mondial des droits de la nature qui sont reconnus dans une vingtaine de pays.
Notamment la Nouvelle-Zélande, hein, le Canada.
Nouvelle-Zélande, effectivement, pour le fleuve Whanganui, mais aussi chez nos voisins en Europe, en Espagne, qui a adopté une loi en 2022 qui reconnaît la lagune Mar Menor comme un sujet de droit doté d'une personnalité juridique.
Et un fleuve corse vient d'obtenir des droits, je crois.
Alors, une déclaration, en fait, le fleuve Tavignano, en oui. Corse, qui est le deuxième fleuve de Corse, c'est une initiative qu'on accompagne avec Notre Affaire à tous depuis 2021. Donc, ce fleuve est menacé par un projet de centre d'enfouissement de déchets aménagés, assimilés de terres amiantifères dans oui. un méandre du fleuve, sur un terrain qui est géologiquement instable. Et donc, le collectif Tavignano Vivou s'est battu pendant 5 ans en justice pour faire annuler ce projet et a perdu. Et donc, ils ont décidé d'agir sur le terrain des droits de la nature. Et on les a aidés, avec Notre Affaire à tous, à rédiger et proclamer la déclaration des droits du fleuve Tavignano, qui est aujourd'hui un instrument de mobilisation citoyenne et politique, puisqu'il est également soutenu par des élus locaux. Aujourd'hui, il y a une trentaine de communes, ainsi que la ville de Bastia et la collectivité de Corse, qui ont adopté des motions pour soutenir la déclaration des droits du fleuve Tavignano. Mmh.
Donc les choses sont en train de bouger, si je vous entends bien. Emma Aziza, c'est essentiel cet outil juridique aussi pour protéger nos fleuves ?
Moi, ça me semble extrêmement intéressant d'un moment donné changer de positionnement et de regarder la rivière en tant qu'élément qui peut à un moment donné se défendre elle aussi. Pourquoi ? Parce que nos ressources en eau sont aujourd'hui finalement au milieu d'un ensemble de sphères qui vont avoir leur propre intérêt. L'industriel a son intérêt par rapport à son besoin en eau. L'eau domestique est un sujet essentiel dans nos sociétés. On voit d'ailleurs que des villes à travers le monde sont dans des déficits absolument alarmant en ce moment et pourrait basculer dans ce jour zéro où on manquerait d'eau. Et donc, en fait, la question de l'eau est avant tout surtout une question économique. On pense très souvent, très peu, à la question de la biodiversité, à finalement retrouver un petit peu cette caractéristique. Alors, je sais qu'il y a énormément de mouvements qui ont tendance à réagir très fortement en disant « mais on a déjà le droit de l'environnement en France, on a déjà tout,
ça
oui,
suffit.
Mais on ne l'applique pas ». Et donc, on ne l'applique pas complètement. Le bon état écologique des cours d'eau, qui était cette myriade qu'on imaginait en 2000, on est en 2024, il n'est toujours pas présent. Donc, je trouve intéressant, ne serait-ce que philosophiquement à un moment donné ou dans une posture, de se retourner, de se dire « mais finalement, est-ce que ce fleuve a aussi le droit d'avoir une personnalité juridique et de se défendre ?»
Défendre et dépolluer les deux urgences du moment. Merci à vous trois d'avoir été les invités de France Inter ce matin.